Bonjour à tous, bonjour. Bonjour monsieur le maire, merci. Asseyez-vous. Bienvenue parmi nous. Donc, écoutez, merci pour ce premier débat de la journée. Débat fort intéressant et fort actuel, vous allez voir, avec deux cerveaux, je dirais, très, très intéressants et qui ont surtout un regard très, très aigu sur les choses et qui sont à la fois dans les idées, mais aussi dans le concret. Donc c'est ça qui est très intéressant de pouvoir justement un peu passer entre les idées qu'on peut avoir, la vision qu'on peut avoir d'une société, d'un pays, d'un État, et sa mise en pratique. Et ça, c'est une chose dont on a cruellement besoin aujourd'hui. On le verra avec David. D'abord, je ne sais pas si je dois vous présenter Madame la préfète Salima Sarr. Donc, vous avez la chance d'avoir une jeune préfète forte, puissante en Corrèze. Et bon, c'est important parce que c'est quand même, François Hollande l'a rappelé hier au déjeuner du Point, c'est quand même la terre des présidents. Donc, voilà. Donc, bonjour Salima, merci d'être ici. Alors, vous verrez que Madame la préfète, évidemment, est soumise à un devoir de réserve que tout le monde ici peut comprendre, mais elle a un regard très, très, très aigu sur toutes les choses, ayant aussi avant un passé d'engagement politique. Donc, voilà, donc ça, c'est assez intéressant, justement, de voir, de remettre ce débat dans ce jus-là, si je puis dire. Et à ma gauche, donc, quelqu'un, on peut dire, qui est pays, puisque David Jazz est venu en voisin. Mais comme nous tous ici, il a des racines brévistes, parce que tout le monde en France a des racines corréziennes, et particulièrement brévistes. Il l'expliquera peut-être, mais enfin, ça appartient à lui en même temps. Donc, David Jazz. Alors, David Jazz a écrit un livre vraiment que je vous conseille, mais vraiment très vivement, et je peux vous assurer que c'est pas un principe comme ça. Parce que c'est un livre, je dirais, alors même si le mot est un peu tabou actuellement, mais c'est un livre positif. C'est-à-dire que c'est un livre qui fait du bien parce que à un moment où on entend beaucoup parler du déclin de la France, eh bien David, lui, montre que évidemment ce déclin n'est pas inéluctable et que on est à une période charnière, un peu à un moment clé de notre histoire. Qui est, on se retrouve un peu dans une impasse, dans un blocage de société, et justement parce qu'on est en panne d'un modèle collectif. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, et qui en plus est sur une trajectoire historique, donc qui part de la libération, enfin on va en parler tout de suite, mais en fait le point de départ est... Et David, je vais te passer la parole tout de suite, mais le point de départ, c'est que, alors toutes les études le montrent, Jérôme Fourquet s'est fait le grand spécialiste de ça dans tous les médias, c'est qu'en fait on est tous dans un bonheur individuel, c'est-à-dire on peut dire que les Français sont individuellement heureux, mais collectivement déprimés. Donc c'est-à-dire qu'en fait on est replié chacun sur son petit bonheur individuel, sur son petit pré carré, mais qu'on est en panne de un peu d'idéaux collectifs. De grands souffles en fait collectifs parce que bon évidemment on est désenchanté par beaucoup de déconvenus on peut dire de lyrisme politique qui n'a pas abouti concrètement et donc c'est un peu ce décalage ce hiatus on pourrait dire que tu explores David dans ce livre.
Absolument, merci Jérôme, merci pour votre invitation, très heureux effectivement d'être ici, parce que j'ai des racines corréziennes par ma grand-mère maternelle. Pour répondre à ta question, il y a le démographe Hervé Lebras qui a publié un livre il y a quelques années qui s'appelait « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Et pour le taquiner, je lui avais dit « En fait, moi je pense que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les gens se sentent bien, plutôt bien, dans une France dont ils ont l'impression qu'elle va mal. C'est-à-dire, quand on regarde les enquêtes de satisfaction personnelle, les Français, parce qu'il y a une civilité aussi en France, les Français ont des liens amicaux, des liens familiaux, ont un bonheur personnel qui est relativement satisfaisant, qui est vraiment au-dessus de la moyenne européenne quand on regarde les enquêtes européennes. En revanche, là où on a une vraie singularité française, c'est dans le rapport à notre destin collectif, que ce soit dans la confiance vis-à-vis des institutions ou dans le sentiment que la France est en déclin. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On a encore fait des enquêtes au moment de la crise du Covid pour regarder le rapport des Français à l'État, le rapport des Français à la vie collective, comparé à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des écarts considérables entre la France, d'une part, l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'autre part, alors que dans la même enquête, on avait sondé la satisfaction personnelle et la confiance interpersonnelle, et on avait des niveaux de satisfaction et de confiance interpersonnelle qui étaient similaires dans ces trois pays. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre cet écart. Pourquoi un relatif bonheur privé, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a aussi de la précarité, des difficultés, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, mais pourquoi un relatif bonheur individuel et un sentiment de malheur collectif. Et l'hypothèse que j'avance, c'est que la France, au moins depuis 1789, mais en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça, parce que c'est un pays qui a été quand même assez largement façonné par l'État, y compris la monarchie administrative, c'est un pays dont le lien social est très lié au lien politique. C'est-à-dire que les Français se sentent bien quand ils ont l'impression qu'ils ont une prise sur leur destin et qu'ils savent où ils vont politiquement. C'est pour ça que le gaullisme, par exemple, à mon avis, a fait autant de bien à la France. C'est parce qu'il y avait ce sentiment qu'on redonnait une fierté, qu'on redonnait une grandeur et qu'on redonnait un cap et un horizon de long terme. Et dès qu'on perd cette boussole, en réalité, il y a un sentiment de désorientation qui prend les gens à la gorge et qui le prend vraiment profondément. Et je crois que c'est ce qui nous accable depuis une quarantaine d'années, parce que le modèle français qui s'est construit dans l'après-guerre a été violemment percuté dans les années 70, dans les années 80, par la mondialisation, l'ouverture des échanges, par la révolution numérique, par une série comme ça de bouleversements auxquels il n'a pas su faire face, et donc il s'est lentement délité en quelque sorte. Et donc l'objet du livre, c'est vraiment de revenir à la source de notre dernier modèle français, et je crois que ce modèle français s'est élaboré de manière très original dans les années 44 à 47. Libération de la France. La France, c'est un pays qui est ruiné sur le plan économique. Il y a quand même 2 millions de déportés et de prisonniers, un quart des infrastructures du pays qui sont détruites. En 1944, à la libération de la France, on peut quasiment pas circuler d'un département à l'autre parce qu'il n'y a plus de ponts, il n'y a plus de gares. Enfin, c'est un pays qui est ruiné. Et par ailleurs, c'est un pays qui est démoralisé. La défaite de 1940, c'est un choc traumatique, dont j'ai pas besoin de rappeler l'ampleur ici. Et puis la collaboration, l'expérience traumatisante de la collaboration et d'une quasi-guerre civile en fait en France. Et pourtant, on arrive.
Et en plus, ce que tu expliques, pardon, dans le livre, c'est qu'aussi c'est un pays qui est replié parce que Vichy s'est fait le chantre, on peut dire, de l'artisanat, du monde
bien
rural,
sûr,
et donc qui a oublié un peu cette la modernisation de
absolument
l'industrialisation.
Et la force de cette période 44-47, c'est qu'il y a des forces politiques et des forces sociales qui s'opposent. Je veux dire, entre les communistes, les gaullistes, les chrétiens-démocrates, il y a des visions du monde qui sont très différentes. Mais ces forces se sont retrouvées dans le creuset de la résistance. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque tu as travaillé sur ça. Et dans ce creuset de la résistance, on a quelques convictions communes très fortes qui vont nous permettre de faire société. La première de ces convictions communes, c'est l'idée effectivement que la France, si elle a perdu aussi lourdement en 1940 face à l'armée allemande, c'est parce qu'elle était sous-développée par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni, par rapport aux États-Unis et même par rapport à l'URSS. C'était un pays qui était encore agricole et artisanal. Et donc il y a tout un discours des communistes aux gaullistes en passant par les chrétiens-démocrates sur la bataille de la production. Dire qu'il faut qu'on remette vraiment le pays sur le chemin de l'industrie. Et puis c'est l'époque où le taylorisme arrive des États-Unis, les grandes organisations, la division du travail en entreprise, etc., etc. Première conviction. Deuxième conviction, l'idée que la puissance publique doit intervenir dans le bien-être économique et social. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la Troisième République qui était très laissé-faire, laissé-aller. Là, tout le monde est conscient qu'on doit construire des dispositifs d'assurance collective. Et donc, la sécurité sociale de 1944, par exemple, c'est une co-construction des communistes, des gaullistes, des socialistes. Enfin, c'est une coproduction, en quelque sorte. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on a des choses extrêmement fortes autour de l'industrie, du plan, des nationalisations, de la sécurité sociale, qui sont des coproductions de tout le spectre politique. Et aujourd'hui, le grand paradoxe de la vie politique, c'est que, au fond, si j'enlève les extrêmes, les positions politiques sont plus proches entre les différents partis. C'est-à-dire qu'il y a moins... En 1945, les communistes, ils rêvent encore de faire la révolution et de faire de la France un pays satellite de l'URSS. On n'a pas aujourd'hui un parti comme ça qui voudrait faire de la France un pays satellite de la Chine, par exemple. Malgré le fait que les positions politiques se soient en apparence rapprochées, on n'arrive plus à se mettre d'accord sur de grandes coproductions, sur des grands chantiers collectifs. Parce que nous avons perdu cette ardeur, cette énergie et cet esprit de la résistance. Et c'est ça que j'essaie de retrouver dans le livre.
Exactement. Et d'ailleurs, nous l'avons perdu collectivement, mais vous voyez bien que David Jez ne l'a pas perdu individuellement, si je puis dire, cette ardeur. Donc, alors je me tourne vers vous, Madame la Préfète, parce que, alors, évidemment, David repart de la trajectoire historique, ce qui est très important, et on parlera d'ailleurs après de la commissariat au plan, parce que le passage aussi est très intéressant dans la modernisation. Mais ce qui est intéressant actuellement, c'est que dans la crise que nous traversons, alors évidemment, bon, au point, on s'en fait beaucoup l'écho, mais c'est vrai qu'on a un état mammouth, trop de normes, une bureaucratisation folle, mais, enfin, ça c'est une petite conviction personnelle, mais je pense qu'on ne traverserait pas la crise que nous avons traversée si nous n'avions pas justement un État fort incarné justement par les préfets. Et le couple maire-préfet qui a permis qui permet de traverser cette tempête. Donc, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous arrivez justement à faire vivre cet État au quotidien? Parce que s'il n'y avait pas les préfets, l'armature préfectorale, eh bien on serait un pays peut-être justement qui serait beaucoup plus en déliquescence.
Alors moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis plutôt quelqu'un de positif et qui voit le présent plutôt que le passé, le présent et l'avenir. Donc en effet, l'État a su être à la hauteur lors de cette crise, mais pas l'État seul, l'État et les collectivités. Le couple maire-préfet, c'est quand même essentiel, on en parle, mais c'est pas une légende. En effet, je vois que monsieur le maire est content, mais c'est vrai, c'est le maillage des préfectures et des sous-préfectures en France a aidé à faire face à cette pandémie franchement, qui nous a tous surpris, et en travaillant en confiance avec les collectivités locales. Et ça, c'est important parce que ce sont des mots auxquels je tiens, la confiance. En fait, je crois à l'intelligence collective, à la confiance. Je pense que c'est ça, en fait, la réponse, et ça correspond, en effet, au propos de David Jez et notamment le nouveau modèle français, parce que je pense que c'est sur ce point-là qu'il faut insister. Et si nous avons su faire face, c'est non seulement parce qu'on a pu écouter, être au contact, en fait, de vous tous, au contact des habitants, et savoir répondre. Alors même si, il faut le reconnaître, il y a eu quelques carences, notamment au démarrage de cette pandémie, parce que tout le monde a été un petit peu perdu, et c'est vrai qu'il y a eu des petites défaillances au démarrage. Mais l'État a su, peut-être pour une fois d'ailleurs, être suffisamment agile pour pouvoir corriger le tir et faire face. Et aujourd'hui, malgré une pandémie inégalée, eh bien aujourd'hui en France, personne n'a vraiment souffert. Enfin, aujourd'hui, quand on compare à d'autres pays, on a su faire face avec le Fonds de solidarité, le PGE, le chômage partiel, toutes les aides et ce fameux plan de relance qui a redonné une dynamique. Alors peut-être qu'en effet, cette pandémie, moi je regarde toujours les choses un peu positives, c'est peut-être l'occasion, et ça a été peut-être l'occasion pour certains de se remettre en question, notamment de l'État, et peut-être de s'assouplir et de faire de la territorialisation. Ce n'est pas juste un vain mot, on a pu le mettre en application en travaillant avec les collectivités et en adaptant les mesures au territoire. Et ça, je pense que c'est l'avenir, parce qu'en effet, on a beaucoup parlé de mondialisation. Alors, c'est vrai que cette pandémie nous a aussi mis face à certains sujets, notamment la désindustrialisation de la France. Ça, c'est un sujet et je pense que ça fait partie des points sur lesquels il faut s'améliorer dans les années qui viennent. Mais si on n'a pas de crise, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe. Donc là, ça a mis vraiment en évidence qu'en France, on ne produisait plus grand-chose et qu'il va peut-être falloir s'y remettre.
Alors, Salima, c'est très intéressant ce que vous dites justement sur l'agilité de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même une agilité de l'État grâce au couple maire-préfet, collectivité-préfet à la base, mais en même temps un État justement un peu, j'allais dire pâteau, enfin un peu bloqué au sommet. Et donc, comment vous vivez ça?
C'est-à-dire, alors, moi je pense qu'il y a eu des vieux réflexes. Les vieux réflexes, en effet, de l'État centralisateur et des hauts fonctionnaires, même si j'ai rejoint cette catégorie, mais je n'en faisais pas partie, donc j'ai un regard encore assez critique sur le sujet. Oui, je pense qu'au démarrage de cette crise, il y a eu ce réflexe, la science, enfin, comme si l'État centralisateur était au-dessus de tout et savait tout. Bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, et donc je dirais que c'est peut-être le 21e siècle, c'est peut-être aussi les esprits, et peut-être que c'est aussi cette mondialisation et le fait qu'on soit ouvert vers le monde qui nous a appris à ouvrir les chakras, comme je dis, et qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a eu des interrogations. On s'est quand même posé la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce mode de fonctionnement et que peut-on décentraliser? Et cette histoire de couple, maire-préfet, ça a été quelque chose d'assez nouveau. Hein, en réalité, ça faisait longtemps que ça n'existait plus à ce point. Et là, ça nous a permis quand même de répondre au quotidien aux besoins des habitants. Je voulais revenir sur un point. Avant cette crise, il y a eu quand même une autre crise, qui est la crise des Gilets jaunes. C'est pas une petite crise. Et donc, suite à cette crise, il y a eu le grand débat, vous vous en souvenez tous. Et ce grand débat a permis quand même d'autres échanges, d'autres formes d'échanges. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et ça a permis peut-être une prise de conscience également entre cette rupture qu'il y a entre l'État centralisateur et la France. La France, et notamment ici, un département comme la Corrèze, un département rural, mais pas que, eh bien, ça a permis de revenir au contact et de prendre conscience de certaines choses, parce que, comme l'a écrit Jérôme Fourquet, en effet, il y a cette forme d'archipélisation de la France, et je pense que les Gilets jaunes, ça a mis en exergue ce point, et ça nous a permis peut-être de repartir au contact des territoires. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de territoires, mais moi, je crois beaucoup à ça, et revenir au contact. À la suite du grand débat, il y a quand même quelques mesures qui ont été prises et qui sont mises en œuvre aujourd'hui par les services de l'État, notamment les agences France Service, je fais la promotion. Et normalement, hein, d'ici 2022, chaque Français est à moins de 30 minutes en fait, d'un service public. Alors même si sur certains territoires, on a l'impression que c'est le désengagement du service public, c'est pas vrai. Ça prend une autre forme. C'est ça. Et c'est ça, cette agilité. L'agilité, elle doit avoir lieu au niveau de l'État, mais au niveau de chaque citoyen également.
Ça, c'est très juste. Alors justement, on revient, David, parce que l'agilité aussi, ça doit être permis par l'anticipation, la prévision. Et donc, je trouve votre passage très intéressant sur le commissariat général au plan, parce qu'on a une image un peu du commissariat au plan comme un peu une espèce de planification soviétique, alors que justement, tu dis que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord dans le recrutement des membres, c'est... au contraire, une volonté d'ouverture. Voilà. Pourquoi on a abandonné un peu ce...
Je reviens à 45-46. Le pays est quasiment détruit et il faut le reconstruire.
Le passé, l'avenir.
Mais je vais me tourner vers l'avenir après. Mais le pays est quasiment détruit. Il faut le reconstruire. Sauf que les Français de la résistance sont un peu comme la poule avec son couteau. Là, qu'est-ce qu'on va... On manque de tout. Il y a des pénuries de charbon. Il n'y a pas d'électricité. Les infrastructures sont détruites. Donc on est obligé, en quelque sorte, de planifier méthodiquement la reconstruction des secteurs stratégique. Et l'homme de la situation, ça va être Jean Monnet. Jean Monnet, il a une trajectoire qui est extrêmement intéressante. Il est originaire de pas très loin d'ici, puisqu'il est issu d'une famille d'exportateurs de cognac dans la Charente. Et c'est c'est pas très loin. Et c'est une personnalité qui est intéressante parce qu'il est à l'intersection du monde des affaires, de la haute administration et de la politique. Il a été, pendant la Première Guerre mondiale, membre des commissions exécutives interalliées. Il parle couramment anglais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a mis là, parce que c'était un exportateur de cognac. Donc, en fait, il était...
Il est très moderne, Jean Monnet.
Il est très moderne. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très
avec
libre.
Une expérience internationale.
Absolument.
Aussi.
Moi, c'est quelqu'un auquel je m'identifie un peu aussi, parce qu'il a une forme de liberté. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez bureaucrate pour être classé dans les hauts fonctionnaires. C'est un intello, mais c'est un intello qui est soucieux d'action. Et il aime beaucoup l'action politique, mais il n'a pas envie d'être un homme de parti. Et donc, il a cette espèce de liberté comme ça, et il va mettre en place en 1946 des commissions de modernisation sur les grands sujets, les grandes verticales, l'électricité, le charbon, l'agriculture, puisqu'on est dans un monde agricole en 1945 où il n'y a que 5000 tracteurs en France, hein, et l'essentiel de la traction agricole c'est des chevaux ou c'est des animaux de trait Hein, il n'y a pas de mécanisation. Et donc, Jean Monnet, en fait, sa grande force, il disait, moi, il faut juste me donner une table de déjeuner. Donc, il met les gens autour de la table. Donc, par exemple, commission de l'électricité, il va mettre les syndicalistes CGT durs de l'EDF, des patrons énergéticiens, des experts, des universitaires, des hommes politiques. Et en fait, il dit, vous ne sortez pas d'ici tant qu'on n'a pas un plan. Donc,
non, mais à Brive, on sait bien que la diplomatie de la table, ça marche bien. Hein.
Mais on parlait tout à l'heure du couple maire-préfet, d'une manière générale, ce qu'on ne sait pas suffisamment faire en France, c'est la co-construction, c'est-à-dire travailler en fait entre tous les acteurs. Il y a trop de silos, chacun est un peu dans son couloir de nage, et là la force de Monnet, et c'est pour ça que c'est une vraie démocratie économique qui met en place en 46-47, c'est de dire ben voilà, on va partager des diagnostics, et c'est autour de ces diagnostics partagés qu'on va construire des stratégies. Et je le dis au passage, si on était capable de faire ça aujourd'hui, on aurait moins de blocages dans le pays sur des grands sujets d'aménagement, ou sur des sujets comme le nucléaire, ou les stratégies énergétiques à horizon 20 ou 30 ans. Parce que dès qu'on se parle, dès qu'on partage des diagnostics un peu objectivés, c'est beaucoup plus facile en fait ensuite pour faire des stratégies. Si on se jette des invectives, ça marche pas. Et donc il y avait en fait à la fois cet esprit de la résistance où il s'entoure de gens. Il y a à la fois des anciens industriels, il y a des anciens politiques, il y a des socialistes, il y a des gaullistes, il y a des communistes, ils s'entourent de gens extrêmement différents, mais ils ont tous cette passion pour la France et cette passion pour son redressement qui passe par la modernisation de l'agriculture, la modernisation de l'industrie. Et en fait, moi j'aimerais qu'on retrouve un peu cet esprit pionnier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, l'État, il a énormément grossi quantitativement, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un niveau de dépenses publiques aujourd'hui, 62% du PIB, donc qui est considérable et qui est unique au monde, qui est en partie nécessaire, mais c'est vrai qu'il a peut-être gagné quantitativement ce qu'il a perdu qualitativement. C'est-à-dire que l'État, il n'a jamais été aussi présent dans nos vies, à la fois sur le plan de la norme, sur le plan de la fiscalité, et en même temps, on sent qu'il est déstabilisé stratégiquement, c'est-à-dire qu'il est moins dans l'anticipation, moins dans le long terme, alors que l'État, c'est censé être une vigie, il est censé raisonner à 20 ans, la pandémie, il aurait dû la prévoir 10 ans avant. Et là, il a eu...
difficile de prévoir cette pandémie, quand même.
Non, parce que cette pandémie-là, non, mais on aurait pu mettre en place des schémas de préparation à la pandémie, c'est-à-dire être capable d'anticiper le choc, ce que ça allait provoquer sur la société, sur la santé, sur l'économie. Et ça, on voit bien que, par exemple, les démocraties asiatiques, comme la Corée du Sud, Taïwan, etc., ont eu une réaction beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. Et donc, moi, ma grande conviction, mon grand combat, c'est de remettre de l'anticipation et du temps long au cœur de l'État. Et ça passe effectivement par... il ne faut pas refaire le commissariat au plan, parce que le commissariat au plan, c'était une institution qui fonctionnait bien en 45-46, dans un pays qui était effectivement détruit, où il y avait des urgences. Mais il faut retrouver l'esprit du plan pour construire un espace dans lequel, effectivement, on peut co-construire les politiques publiques.
Oui, mais alors, David, pardon, mais remettre du temps long dans un pays où on a un quinquennat et en plus des présidents, enfin en tout cas récents, qui ont du mal à se faire réélire, donc qui ne sont pas dans le temps long. Quand le politique n'est pas dans le temps long, il se fait phagocyter par une administration qui, elle, se met justement... Et c'est un des problèmes...
C'est tout le sujet.
On dit quand même beaucoup que Emmanuel Macron est prisonnier d'une technostructure qui l'entrave en fait.
Je ne sais pas s'il est prisonnier, mais c'est vrai que dans le système actuel, vous avez un président qui est élu, en général pour 5 ans. Il arrive avec un projet. Il est élu au premier tour par 20% des Français à peu près. Hein. Il commence à mettre en place son projet et là, il crame beaucoup de capital politique parce que au début, en fait, on s'engage sur un projet et on brûle du capital politique. Et très vite, en fait, il se retrouve entravé. Au bout de quelques mois, sa cote de popularité dégringole. On a des oppositions. On n'a pas de contrat de coalition comme en Allemagne. Donc, on a une majorité et des oppositions qui ne pensent qu'à s'opposer. La majorité n'écoute pas toujours comme il le faut ni les oppositions, ni les territoires, ni les corps intermédiaires. Et donc, en fait, on est dans un pays qui est bloqué. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à coproduire des grandes stratégies ou des grands projets de long terme. Et on a des ministres qui changent beaucoup, tous les 1 an, tous les 2 ans. On a des alternances où la première chose qu'on fait, c'est qu'on défait en fait ce qui avait été fait par le précédent gouvernement. Et donc, on a beaucoup de mal à construire sur des sujets de long terme qui nécessitent pourtant de la stabilité, de la patience stratégique. Et vous voyez, la stratégie énergétique de la France, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, moi je préfère parler de révolution de la longévité d'ailleurs, parce que c'est un terme qui est beaucoup plus positif, mais c'est un tsunami en termes sociétal aussi important que le changement climatique. Ça va modifier notre lien social, notre urbanisme, nos relations collectives, et on n'est pas du tout à la hauteur. pour tous ces sujets qui nécessitent de l'anticipation et du long terme, il faut qu'on puisse construire des stratégies. Et aujourd'hui, nous n'avons pas l'équipement institutionnel qui nous permet de le faire.
Bah, pourtant, enfin, alors, Madame la Préfète, on a quand même un équipement institutionnel. On est très bien outillé institutionnellement en France. Donc, pourquoi on n'arrive pas à faire... Vous parliez tout à l'heure d'intelligence collective.
Alors, j'allais y venir.
Je rappelle quand même l'intelligence collective a été inventée par les Dominicains au XIIIe siècle. Hein. Donc, c'est ancré quand même dans le paysage.
Alors,
parce que
moi,
les maires, les préfets, vous arrivez à être des facilitateurs. Je regarde Frédéric, c'est vraiment le rôle des maires d'être des facilitateurs, de mettre les gens autour de la table. C'est le rôle des préfets aussi. Et pourquoi ça ne franchit pas l'étape au-dessus,
alors,
en fait.
Je rejoins David J. sur le point de la planification. Je pense qu'en effet, c'est nécessaire. En fait, pour moi, il y a deux niveaux. Il faut à la fois être capable de planifier sur le long terme et de réagir vite quand c'est nécessaire. Mais pour cela, alors en effet, le quinquennat, c'est court. Mais l'administration, pour le coup, je vais défendre l'administration, ça, c'est solide et ça dure. Alors maintenant, il ne faut pas que ce soit un blocage. Mais pour moi, l'intelligence collective, elle doit se faire plus largement que ça. Là, on a oublié aussi les entreprises. Enfin, il faut à la fois le monde du public, le monde du privé, le monde politique pour faire une vraie stratégie et en effet commencer à planifier. Moi, ce qui me désole depuis un certain nombre d'années, en effet, quand je vois en France, enfin, j'ai écrit d'ailleurs sur le sujet, c'est qu'on voit des pans entiers de l'industrialisation qui sont fermés, des régions complètes en France qui se sont vraiment paupérisées. Et on ne s'est pas dit un jour, mais qu'est-ce qu'on va faire pour anticiper? On sait bien que certaines économies, elles vont être en déclin et qu'il faut déjà anticiper sur ce qui va se faire après, former les gens sur les nouveaux métiers. Enfin, tout ça, ça demande en fait une organisation. Pour moi, l'État peut gérer ça, mais pas seul. En fait, c'est ça le sujet. C'est qu'il ne faut pas être dans les silos, comme vient de dire David Jez. C'est du collectif. Et collectif, c'est entreprise, c'est État, c'est politique, c'est collectivité locale. Et avec tout ce monde-là autour de la table, et en effet, en anticipant, on peut... Eh bien, développer le pays et développer l'économie, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et pas uniquement des structures administratives et d'institutions, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais moi je parle d'économie, de travail, de formation, et faire en sorte que, oui, les Français puissent se projeter à long terme, parce que je pense en effet ce qui déprime la France, alors que le niveau de vie est plutôt un bon niveau de vie en France, c'est l'impossibilité de se projeter. Et quand on n'arrive plus à avoir des projets et on n'arrive pas à se projeter à plus de 6 mois ou à plus de 2 ans ou 3 ans, eh ben oui, ça déprime. Et on est le pays avec la consommation d'antidépresseurs le plus élevée.
Oui, c'est très juste ce constat. Mais alors, quand vous dites nouveau modèle social français, qu'est-ce que... Parce que, bon, on n'est pas... Le problème, c'est qu'on dirait en France, on n'a pas de De Gaulle. Là, pour l'instant, c'est un peu ça. On est orphelin. Tout le monde se réclame, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais Franz-Olivier Gisbert vient de sortir un livre vraiment étonnant sur l'histoire intime de la Ve République autour de la personnalité de De Gaulle. Mais il y a ça aussi, le problème. Ce blocage, il est lié au fait qu'on n'a plus de souffle collectif.
Alors, tu connais la phrase de Malraux qui disait « Tout le monde est, a été ou sera gaulliste ». Ça, c'est vrai. Après, il y a gaulliste et gaulliste. Quand on regarde l'histoire de France, on voit que c'est quand même une succession de triomphes et de désastres. Ces 150 dernières années et 1870, c'est un point très noir dans notre histoire aussi. C'est la défaite de la France face à la Prusse. Défaite surprise parce que le Second Empire était à ce moment-là au fait de sa gloire et Napoléon III était très confiant sur le fait qu'on allait gagner face à la Prusse, et là, l'armée française est balayée par les troupes prussiennes, et ce qu'on découvre, c'est que les soldats prussiens sont beaucoup mieux formés que les Français, alors même que la République, la France de la Révolution, se voyait comme le pays de l'intelligence. Et donc, il y a une sorte d'introspection qui se fait à ce moment-là, et on va construire un modèle républicain, la Troisième République, qui repose sur l'éducation, l'instruction publique, sur la liberté de la presse, sur les grandes lois de liberté. Donc c'est dans l'ombre de ce désastre de 70 qu'on construit le modèle de la Troisième. 1945, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est à l'ombre, d'ailleurs c'est ce que disait Marc Bloch dans son livre génial, L'étrange défaite, qui dit « C'est peut-être une chance que nous soyons contraints ainsi, de travailler ainsi dans la rage à l'ombre du désastre ». C'est-à-dire que 1940 a été un tel désastre que il y a l'orgueil français est piqué au vif, et comme il est piqué au vif, on se retrousse les manches deux fois plus et on s'y remet. Alors moi, je ne nous souhaite pas une guerre ou des circonstances comparables à 1870 ou 1940. Et donc le livre, c'est une proposition de modèle français en temps de paix. C'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on peut construire un modèle, mais sans en passer par l'effondrement, l'humiliation, la débâcle.
Alors comment ?
Alors, trois choses. L'esprit de la résistance, c'était effectivement une flamme, une ardeur, et c'était lié à des circonstances exceptionnelles. Là, moi, je propose d'insuffler cet esprit de la résistance dans les institutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de co-construire des grandes stratégies de long terme. Et donc, pour ça, il faut que la fonction présidentielle reprenne de la hauteur par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été écrasée par le quinquennat. D'ailleurs, moi, quand on dit le président de la République depuis Sarkozy, on dit que c'est un hyper-président. En fait, non, c'est un hyper-premier ministre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en permanence enchaîné au long terme, à l'actualité, aux polémiques.
D'ailleurs, mais c'est lié aussi aux personnalités gèrent ce mandat.
Justement, je ne suis pas sûr. Parce que,
le président doit être sans arrêt sur n'importe quel fait divers.
Oui, mais regarde, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est quand même trois personnalités très différentes et tous les trois, ils ont souffert de cette hyperactivité, cette hyper implication dans le quotidien et dans le court terme. Et je pense
ils ont souffert, mais ils en sont aussi le moteur.
Oui, mais même quand ils veulent prendre de la hauteur, à chaque fois, tout remonte, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un système où dès qu'il y a un chien écrasé, j'exagère à peine, ça remonte au président. Donc ça, c'est pas un bon système. L'esprit de De Gaulle, il faut retrouver l'esprit du discours de Bayeux, c'était de dire le président arbitre. Il est le garant du long terme, il est l'arbitre. Mais donc ça veut dire qu'on accepte de lâcher un peu de lest au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour une dose de proportionnel. Et je suis favorable à ce qu'on puisse construire des coalitions. Il faut qu'on développe cette culture de coalition. Et rien ne m'énerve plus que les gens me disent « Ah, mais en France, on n'a pas la culture de coalition. »
Pardon, mais la culture de coalition, ça a donné la 3e et la 4e République avec instabilité ministérielle, etc.
Et alors, plusieurs choses. D'abord, la 3e et la 4e, c'est pas pareil. Ouais. La 4e, j'en suis plutôt, contrairement à l'image qui en est donnée, un défenseur, parce que c'est quand même sous la 4e qu'on a construit le commissariat au plan, qu'on a mis en place la politique économique qui a permis de reconstruire la France. Et en fait, justement, l'intérêt de la 4e, c'est que derrière les joutes parlementaires et les gouvernements éphémère, il y avait des gens qui se parlaient et qui co-construisaient des choses très intéressantes. Après, là où elle a été prise en défaut, c'est vraiment sur la guerre d'Algérie et sur les affaires extérieures. Mais au-delà de ça, c'est pas du tout la 4e parce que justement le président reste élu au suffrage universel direct pour un septennat. Moi, je suis plus pour le septennat que pour le quinquennat.
Renouvelable ou non renouvelable ?
Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je suis plutôt pour le non renouvelable, mais j'ai discuté avec des constitutionnalistes récemment qui m'ont plutôt convaincu du fait que non renouvelable, c'est problématique parce que le jour où le mec est élu, c'est la guérilla dans son... Parce que tout le monde pense au coup d'après. Donc, il faut réfléchir à cet aspect-là.
Donc là, Xavier Bertrand qui vient de déclarer qu'il ne ferait qu'un quinquennat.
Je sais pas. C'est-à-dire que...
Michel Barnier qui a dit qu'il allait passer.
Je peux te permettre, en effet, je pense que un quinquennat ou septennat non renouvelable, c'est la course des petits chevaux le lendemain de l'élection du président. Et je ne suis pas sûre que ça aide à gouverner. Parce qu'en fait, il faut quand même du temps. On vient de le dire, il faut du temps pour pouvoir faire les choses. Et si, dès le lendemain d'élection du président de la République, tout le monde pense à la prochaine élection, c'est l'enfer. Ça veut dire que chaque jour, c'est des combats idéologiques, voire complètement superficiels, pour expliquer qu'on va être le meilleur pour le prochain. Et si ça dure 5 ans ou 7 ans, c'est long. Et c'est pas bon pour la France. Donc moi, je pense qu'il faut quand même que ce soit renouvelable, malgré tout. C'est un vrai sujet, hein, c'est important. Mais comme l'a dit David, je pense qu'il faut aussi redonner du pouvoir au Parlement. Je pense que c'est un petit peu ça, en effet, un sujet de... Enfin, là, je me permets, je sors de ma casquette de préfète, hein, mais je pense qu'il faut redonner du pouvoir au Parlement et pouvoir co-construire, même si on n'a pas l'esprit des Allemands. Vous passerez, c'est les Français sont les Français. Mais on peut quand même évoluer. Et moi, plus que l'esprit de la résistance, j'aimerais qu'on parle d'esprit de conquête, qu'on regarde à l'avant et qu'on lance des grands projets. Mais enfin, le président de la République, récemment, a quand même parlé de projets d'avenir. Donc, j'ai confiance. Et oui, il faut projeter. Mais l'esprit de conquête, je pense que ça peut convenir à l'esprit français.
Alors, justement, France 2030, dont parlait Madame la Préfète, c'est un très bon exemple. Donc, il y a une dizaine de grandes verticales qui ont été identifiées, l'agriculture, la conquête spatiale, l'exploration des fonds marins. Et je pense en réalité que c'est un très bon objet pour expérimenter le nouveau modèle français. C'est-à-dire que on n'arrivera pas à mettre en œuvre ce plan France 2030 si on ne le co-construit pas avec les collectivités territoriales, avec les entreprises, avec le monde de la recherche.
Alors, les solutions, David, donc un président arbitre, bon, voilà, évidemment, dans n'importe quelle entreprise ou collectivité, le bon manager, c'est celui qui aide ses équipes à s'exprimer, et justement, qui est un peu en retrait et qui sait déléguer. Donc ça, pour l'instant, on a eu des présidents quand même qui... Alors, ça remonte, mais c'est aussi lié à leur personnalité, c'est-à-dire cette volonté d'être toujours sur le terrain, dès qu'il y a un fait divers, on y va. Enfin, le président nounou, c'est un peu compliqué. Mais président arbitre, co-gestion un peu à tous les étages, si on peut dire. Et puis après, un réflexe aussi, mais comment on redonne un esprit individuel, enfin, à chacun, un esprit civique, parce que c'est ça le...
Alors, il y a deux choses. Je vais parler d'abord de l'économie et ensuite de l'esprit civique. Sur l'économie, je pense que la France, qui a mal vécu la mondialisation libérale parce qu'elle était, elle n'avait pas les atouts pour faire face à cette mondialisation financière dominée par le monde anglo-saxon. Donc elle a été percutée, elle avait un système public important, voire lourd, elle avait beaucoup d'entreprises publiques, d'économies mixtes, etc. Donc elle était mal équipée. Et puis la grande mode, c'était l'économie des services, il y avait même un PDG qui avait parlé de l'entreprise sans usine. Enfin, on a sacrifié une partie de notre industrie sur des visions et des principes qui étaient faux. Nous entrons dans un monde complètement différent. Nous entrons dans un monde où l'urgence climatique est en train de devenir le défi le plus ardent. L'ardente obligation aujourd'hui, c'est l'impasse climatique. Il y a aussi le vieillissement de la population dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi la révolution numérique. Il y a aussi les nouvelles menaces géopolitiques. Donc nous sommes dans un monde de transition et de transformation très profonde. Et la France, par son réseau de petites villes et de villes moyennes, parce que la France, comme disait Fernand Braudel, c'est un pays de villes moyennes en fait. L'industrialisation de la France s'est faite dans les villes moyennes, elle s'est pas faite dans les grandes villes, contrairement à l'Angleterre. L'industrialisation anglaise s'est faite à Manchester, Liverpool et Londres, parce qu'il y a une loi dès le XVIe siècle qui s'appelait le Weavers Act, qui interdisait la dispersion des métiers à tisser. En France, on a une tradition d'artisanat et d'industrie rurale, de petites villes et de villes moyennes. Et c'est ça la richesse extraordinaire de la France. Donc nous avons un réseau de territoires, de villes moyennes extraordinaires. Nous avons des services publics de qualité, même s'ils se sont un peu bureaucratisés. Nous avons des intelligences extraordinaires. Hein, regardez le nombre de prix Nobel, de médailles Fields, etc. Et nous avons un art de vivre.
Les labos de recherche.
Les labos de recherche et un art de vivre autour de la gastronomie. Regardez cette foire du livre, le monde que ça attire. On est intéressé par la culture, par l'art de vivre. Il y a des savoir-faire et des choses extraordinaires. Et tout ça, en fait, ça dessine en quelque sorte les contours d'une économie que moi j'appelle l'économie du bien-être, qu'on pourrait appeler autrement. Jacques Attali a parlé de l'économie de la vie, mon ami Pierre Veltz a parlé de l'économie désirable. C'est une économie qui n'est pas une économie de consommation de masse, mais c'est une économie territorialisée, relationnelle, qui crée autant de valeurs sociales que de valeurs économiques et qui repose sur des secteurs dans lesquels la France excelle. Alors, il y a évidemment l'agriculture et l'agroalimentaire. Nous sommes une puissance agricole. Il suffit de se promener en France. La France, c'est en fait... se promener en France, moi, c'est un ami américain qui m'avait fait me rendre compte de ça. C'est une alternance de ville moyenne avec un magnifique patrimoine historique et d'agriculture. Et les Américains me disent souvent, la France, en fait, c'est des champs cultivés. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est des espaces sauvages à perte de vue. La France a été profondément modelée par son agriculture. Donc c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est évidemment les mobilités douces, c'est les énergies décarbonées. Et en fait, dans ces secteurs de l'économie du bien-être, c'est les services aux collectivités. Ce qui est intéressant dans ces secteurs d'excellence français, c'est qu'il y a à la fois du service, donc de la relation, hein, entre les gens, donc du lien social potentiellement, parce que l'économie c'est pas que faire du profit, c'est créer des liens dans les territoires, mais il y a aussi de l'industrie, parce que en santé aujourd'hui, les IRM, la robotique médicale, les prothèses, c'est des processus industriels. Donc là on a en fait la France, grâce à son système d'économie mixte, grâce à ses services publics, grâce à ses infrastructures, peut devenir la championne de cette nouvelle
économie.
David,
sur ce que vous dites, je voudrais juste entendre Madame la Préfète. Économie du bien-être, vous pensez que c'est jouable, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce concept, on peut dire, mais qui est très concret, mais...
Ah, je pense que c'est une très bonne piste et que ça ferait du bien à tout le monde. Et en effet, j'entends les sujets d'industrialisation sur tout ce qui est plutôt biotech ou santé. En effet, on est confronté au vieillissement de la population et je pense qu'on a un savoir-faire en France. Et quand on parle de réindustrialiser la France, il ne s'agit pas de remettre des fonderies en France, c'est pas ça le sujet. Mais en effet, d'être sur des technologies, de répondre aux besoins des citoyens et de répondre ici en France. Mais pour que ça puisse se faire et envoyer un message positif, moi, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, je trouve que c'est bien aujourd'hui d'entendre des discours positifs, parce qu'il y en a marre d'entendre toujours des discours déclinistes et le suicide français, je ne suis pas sûre que ce soit un avenir. Donc en effet, l'économie du bien-être, le lien social, c'est ce qui fait la richesse d'un pays, la richesse d'un peuple. Et donc, ça passe aussi par l'économie et de l'industrie.
Et d'ailleurs, c'est des sujets qui, pour l'instant, bon, on est en train de lancer la campagne présidentielle, mais sont assez absents du débat quand même.
Ils sont dramatiquement absents du débat.
Tout ce qui est prise en charge de la petite enfance et du grand âge, qui sont quand même, qui concernent à peu près tous les Français au jour le jour, au quotidien. Tout le monde se bat pour essayer d'avoir des prises en charge, des aides. Enfin, tout le monde court après ça.
Aujourd'hui, on nous parle d'identité. C'est ça le sujet. Alors qu'en effet, on est confronté à d'autres sujets qui préoccupent tous les Français, le vieillissement de la population, l'éducation, le travail. Et aujourd'hui, le débat est complètement squeezé et on nous parle de certains sujets qui ne préoccupent pas forcément l'ensemble. Je ne dis pas que l'identité n'est pas un sujet, mais je ne pense pas que ça fasse alpha et oméga de la préoccupation des Français.
Très juste. Mais je vais vous donner un exemple. Le groupe RTE a publié un très très bon rapport il y a quelques semaines là, sur les stratégies énergétiques de la France à horizon 50 ans. Il y avait 6 scénarios, dans mon souvenir. C'est un rapport qui est excellent, pour le coup, qu'ils ont très bien travaillé, parce qu'ils ont vraiment, un peu dans l'esprit que je propose, c'est-à-dire vraiment grand angle. Mais est-ce qu'on en a parlé vraiment dans les médias? C'est-à-dire que
Le point, oui.
Oui, dans le point, bien sûr. Mais
le grand spécialiste Géraldine Vesner qui a fait...
Voilà. Oui, mais Géraldine fait des très bons papiers, effectivement, sur l'énergie et la science. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait faire la une des médias et ça devrait être dans le débat. Plutôt que de rebondir... On est comme des balles rebondissantes. Chaque jour, on rebondit sur la petite polémique. On a un espèce d'histrion populiste, là, maintenant, qui a pris les rênes du débat public et qui, chaque jour, en fonction de sa sortie, de son coup d'éclat, va dicter nos conversations. Mais on en a pas marre de ça? Il faut qu'on soit capable de... faire redescendre un peu la température et surtout de se parler.
Moi, mais ça, c'est le débat politique. C'est-à-dire le débat politique...
Oui, mais bon, je crois qu'il y a une responsabilité. Pardon, là, je le dis un peu solennellement, mais à la fois des médias et des responsables politiques d'élever le niveau du débat et de faire en sorte que les choses... Et de faire en sorte qu'on parle aussi des sujets de long terme. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ce que disait très bien Jean-Marc Jancovici à propos de la transition énergétique. La claque qu'on s'est prise au moment des Gilets jaunes, là, avec le prix de l'essence, la claque qu'on est en train de se prendre en ce moment avec les prix de l'énergie ça va être... Ça, c'est des pichenettes à côté de ce qui va... On va se prendre des baffes tous les jours. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on se prend des baffes tous les jours et on subit, et on a des crises sociales et on a quasiment le chaos dans le pays? Ou est-ce qu'au contraire, on retrouve cet esprit de 45 et on se dit voilà les défis auxquels on va devoir faire face et voilà comment on va y arriver et on va y arriver tous ensemble et ça va être ça notre manière d'être français au XXIe siècle.
Alors, je ne sais pas combien de temps on a en fait, il reste combien de temps? 10 minutes. Bon, d'accord. Donc, on va essayer de prendre des questions dans la salle peut-être. Mais, pardon David, mais tu avais parlé de trois choses. Donc on avait dit le président arbitre, la cogestion et la troisième dimension, c'était quoi?
La troisième dimension, c'est le lien civique. C'est-à-dire que je
avant
disais.
Avant d'entrer dans la quatrième.
Voilà. Ou la cinquième même. Je disais tout à l'heure, le lien social en France, il est très marqué par le lien politique. Donc on est un pays qui a besoin de services publics, qui a besoin d'espaces publics, qui a besoin d'endroits où les gens puissent parler du bien commun. Et c'est vrai que dans les territoires dont on parlait tout à l'heure, les petites villes, la ruralité, on a des fermetures de services publics. On a des cafés qui ont fermé, des troquets qui jouent un rôle, y compris dans les zones rurales industrielles. Dans le quart nord-est, par exemple, le rôle des cafés était très important. Donc on a perdu ces lieux de sociabilité. Et donc on a construit des grandes zones commerciales en périphérie, on a des centres-villes qui se sont dévitalisés. Moi, je suis un grand défenseur des programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain. Parce que leur premier mérite, c'est déjà de faire travailler tout le monde ensemble autour d'un même objet. On a une préoccupation sur les centres-villes, on met tout le monde autour de la table. Et on essaye de trouver des solutions sur l'habitat, sur le commerce, sur le cadre de vie, l'urbanisme, le stationnement. Et en fait, c'est cette addition de petites actions qui produit une politique d'envergure. Et donc, il faut qu'on retrouve aujourd'hui, il faut qu'on ait un plan Marshall pour le lien social, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé pendant les Gilets jaunes, moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne, et Florence Omnas, elle avait écrit un très bel article sur les Gilets jaunes à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, les gens qu'elle avait interrogés, c'était beaucoup de mamans solo, donc c'était des mères seules qui élèvent leurs enfants, et qui disaient, pourquoi vous êtes là? C'était pas très politisé au départ. Elles n'étaient pas là avec le RIC ou une idée. Non, elles disaient, je suis là parce que, en fait, dans ma journée, je parle à personne. Et là, enfin, on peut reparler de la vie de la cité. On peut. Mais non, mais ça vous fait rien, mais c'est pas drôle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très. Et donc, moi, je trouve que ça, déjà ça, voilà, retrouver de la délibération collective, retrouver des lieux où on se parle, où on échange, ça c'est vraiment l'urgence ultime, je pense.
Alors, ce qu'on fait à la foire du livre.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur le point, le programme Action Cœur de Ville. En effet, Action Cœur de Ville, d'ailleurs ici à Brive, ça a été quelque chose de très efficace. Et je pense, oui, qu'il faut retrouver ce lien social, qu'il faut refaire vivre les villes, notamment les villes moyennes, les centres-villes, avec des transports, des commerces, des bistrots. D'ailleurs, il y a un plan 1000 cafés, ça m'a fait sourire quand j'avais découvert ce plan, parce que je me suis dit qu'on en était arrivé dans le pays où devoir faire un plan dirigé par l'État pour ouvrir des cafés. Bon, enfin bon, ça c'est une petite parenthèse.
C'est le groupe SOS aussi.
Ouais, mais bon, ça veut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays où on s'est dit qu'on allait fermer. Oui, en effet, les Gilets jaunes, ça a mis en exergue ce point-là, ce manque d'échange. Alors moi, en blaguant, parce que j'aime bien blaguer de temps en temps, je me disais, il manque les MJC, l'époque des MJC, et ça s'est retrouvé sur les ronds-points. D'ailleurs, il y a eu des mariages. Mais on peut dire ça en rigolant, mais ça veut quand même dire qu'il y a une détresse. Et qu'en fait, il faut y faire face et il faut pouvoir répondre. Et ça, pour moi, ça, la réponse, elle se fait avec les collectivités locales, avec le soutien de l'État. Et là, ça, on peut avancer pour faire en sorte qu'on retrouve des liens de socialisation, des liens d'échange, parce que rien de tel que les échanges humains. Et c'est pas à travers un écran, en étant collé devant sa télé toute la journée, complètement isolé, en regardant en boucle des chaînes d'information pour pas les citer, qu'on va faire évoluer le pays, qu'on va retrouver cet esprit de conquête et cet esprit français qui fait qu'on aime le lien social, qu'on aime vivre, qu'on aime aller manger ensemble, qu'on aime ça. Et c'est vrai que cette période qu'on vient de vivre d'un an et demi de Covid avec des restrictions, je suis préfète, donc je le sais bien, des restrictions qui nous ont quand même limités dans les échanges. On l'a vu ici, notamment sur le département, quand on a relâché, eh ben ça a fait du bien. Et dans chaque petite fête de village, récemment je suis allée à la fête de la Châtaigne, il n'y avait jamais eu autant de monde. Aujourd'hui on le voit, oui, ce lien c'est nécessaire, et c'est nécessaire au bien-être, c'est nécessaire à la vie, d'où l'économie du bien-être.
Merci. Y a-t-il des questions à nos deux excellents, vous avez vu, on commence une journée sur les chapeaux de roue là avec vous deux, merci. Y a-t-il des questions ces deux personnalités? Il n'y a pas de questions, alors il n'y a pas de délibération, justement, la volonté de...
Allez acheter le livre.
C'est bien, hein, c'est bien.
Alors, croissance ou décroissance pour l'avenir?
Vaste question, aurait dit le général.
Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait un peu partie des débats théologiques dont je pense que qui empoisonnent un peu notre débat. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens qui défendent la décroissance sont prisonniers du même schéma que les gens qui défendent la croissance. C'est-à-dire que le sujet n'est plus aujourd'hui strictement le PIB. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on continue à créer de la prospérité, à créer de l'emploi, à créer de la valeur, parce que c'est important, mais en n'émettant plus de gaz à effet de serre et en étant respectueux de l'environnement. Et c'est pour ça, moi, que il faut qu'on invente un nouveau récit économique. Parce que si on dit aux gens, si on se contente de dire aux gens, vous allez devoir faire des sacrifices, ça va être terrible, il va falloir décroître, baisser la production, tout arrêter, etc. Déjà, c'est, à mon avis, inopérant, mais en plus, c'est déprimant. Hein, et donc il ne faut pas dire aux gens on va faire moins, il faut dire aux gens on va faire mieux, et on va faire mieux éventuellement avec moins d'intrants, mais on va faire mieux. Et donc pour ça on a besoin d'un récit industriel et d'un récit économique. Bon, moi j'ai tenté ça avec l'économie du bien-être, mais c'est une petite proposition. Je pense que on est plusieurs, je parlais de Pierre Veltz tout à l'heure, on est plusieurs à essayer d'articuler cette espèce de nouveau récit économique dans lequel la France, justement, a des atouts et peut prendre une position de leader. Et je pense que c'est la même chose sur le nucléaire. Pour moi, le sujet, c'est pas pour ou contre le nucléaire. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on arrive au net zéro, c'est-à-dire à zéro émission de gaz à effet de serre. Et donc, quel est le mix énergétique? Et donc, c'est pour ça que le rapport de RTE, il est très bien, parce qu'en fait, il propose 6 scénarios. Et il dit, voilà, il y a la question de la sobriété, il y a la question du nucléaire, il y a la question des renouvelables. Prenons en compte tous ces paramètres et ayons un vrai débat pragmatique et faisons ensemble un choix de société. Mais je trouve qu'il y a parfois autant d'irrationalité dans les gens qui sont pour le nucléaire par principe que chez les gens qui sont contre le nucléaire par principe. Je pense qu'il faut regarder les choses froidement et qu'on puisse avoir un vrai débat sur ces sujets.
Je dirais même plus, il faut faire mieux, mais il faut surtout faire autrement. Et surtout avoir de la nuance, parce qu'en effet, c'est pas pour ou contre. Et tant qu'on est dans des débats comme ça, on est pour ou contre le nucléaire, on est pour ou contre la croissance, eh bien, on n'avance pas. Et donc, il faut faire autrement et réfléchir. Et ce qu'il faut également, on en parlait hier soir justement lors du dîner, c'est peut-être miser beaucoup plus sur la recherche et développement. On est peut-être un pays qui met pas assez d'argent sur ce volet-là. Et la recherche et développement, ça peut justement peut-être répondre d'une autre manière à cette histoire croissance ou décroissance, et plutôt de dire mieux et autrement.
Non, ce qui est intéressant dans la recherche et développement, c'est aussi la réunion machine à café, comme on dit, c'est-à-dire mettre des entreprises avec des labos de recherche. Et tout le monde se retrouve à la cafette, et comme ça, on échange des... Voilà.
C'est
étonnant que ce ne soit pas plus développé. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez réagir à, parce que je sens que vous êtes bouillant de tous ces échanges, évidemment. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui a été dit, là? Parce que, évidemment, vous êtes au premier rang de toutes ces...
Non, ce que nous avons entendu ce matin est fort intéressant, et puis avec un visage à deux tons, et je trouve qu'il y a du contenu, et non, je peux que approuver. Vous savez, les maires, c'est les premiers soldats ou les derniers soldats de la République, mais bon, on n'est pas non plus les seuls, et je trouve que ce que cette crise nous a aussi beaucoup appris, vu d'en bas, parce que nous sommes des Girondins, on combat les Jacobins, voilà. Et je pense que la France a encore beaucoup de progrès à faire avec une vraie place des Girondins dans ce pouvoir d'en haut. Donc on a beaucoup de marge de progrès, et je pense que voilà, les maires ont quelques idées, mais le couple préfet-maire, maire-préfet est extrêmement important pour les années à venir. Et puis cette France qu'on a construite aussi d'après-guerre, comme le rappelait parfaitement bien, j'ai eu l'impression qu'on avait un vrai historien sur la place, donc et puis une vraie passion. Mais ce qu'il a dit était aussi très important. Moi, j'ai trouvé que la comparaison avec la période de guerre, cette dernière guerre, donc, on a quand même connu plus de 75 ans de paix, donc ça va, on est quand même heureux de vivre sur cette terre, et en particulier ici à Brive, où monsieur le sous-préfet sait bien qu'ici à Brive, je dors bien, je mange bien, je travaille bien. C'est des notions très, très moderne, question sociétale et environnementale, mais pour le coup, quand on a vécu jusqu'au 19e siècle sur le tout Paris et après le 19-20e sur les toutes capitales régionales, c'est vrai qu'aujourd'hui la séquence qui est intéressante, c'est le tout vers les petites villes moyennes, des petits territoires moyens, si et seulement si on est aussi capable de coopérer avec des voisins, parce qu'en fait, la richesse, la création de l'impôt, la richesse fiscale ou sociale, elle sera aussi une richesse de compétition entre ces territoires moyens. Donc ici, à Brive, l'intérêt, c'est de travailler avec Périgueux, de travailler avec Cahors, de travailler aussi avec Tulle, d'avoir cette liaison de coopération territoriale pour faire en sorte que, ici, on ait une petite métropole de croissance, mais pas de la croissance à vil prix, comme les capitales régionales. Nous, on a une croissance avec, en regardant bien dans le rétroviseur, ce qui est bon pour la croissance. Et les questions sociétales et environnementales sont vraiment des questions à privilégier. Voilà. Et donc ce tout Paris, ce tout capitale régionale peut se transformer de façon intéressante pour des petits territoires comme les nôtres. Et puis quand on a des murs porteurs comme la Foire du Livre, comme le rugby, comme le Festival de l'élevage, hein, le Festival de l'élevage, c'est aussi le Festival du bien élevé au bien manger. 7 milliards d'individus, demain 10 milliards, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Quels sont les produits et comment on va les fabriquer? Voilà, tout ça, c'est des questions qui sont très, très importantes, et je trouve que ce débat, ce matin, est de très bonne qualité. Et merci, en tout cas, aux deux intervenants.
Merci. Alors, juste pour conclure, parce que, monsieur le maire, vous parliez d'un vieil historien, mais justement, mon intérêt, c'est que c'est un jeune historien, et on le retrouve beaucoup, justement, cette passion qu'il a, on le retrouve dans son livre, et l'intérêt de David Jez, et après, j'en aurai fini, c'est que non seulement il est historien, mais il est aussi très engagé dans la vie de la cité. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce livre. Et ce livre, c'est un livre d'ouverture. Au moment où tous les débats sont enfermés, il y a beaucoup de livres de fermeture, de débats de fermeture. Et ça, c'est un livre d'ouverture et qui n'est pas cucu la praline ou béni oui oui ou bisounours, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est... Vraiment, je vous engage vivement à l'acheter. En attendant celui de Madame la Préfète.
C'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que c'est un livre d'espoir. Et on en a besoin.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.